Alors, Pierre-Yves, les contribuables canadiens aux revenus le plus élevé, on parle du 1%, c'est oui. ça? 1% de la population, ont vu leurs revenus augmenter en 2015. Bref, les riches sont de plus en plus riches au Canada.
De 12,2% pour atteindre 529 600 $ évidemment en moyenne. Il faut faire attention en plus parce que là, on ne parle même pas du revenu d'entreprise. Parce que là, le revenu personnel, Paul, ça inclut le revenu qu'on se paye. Mais tout d'un coup que j'ai une entreprise, moi, qui a 5 millions de capital dedans et que je ne me verse pas de dividendes, je ne me verse pas de salaire, je peux très bien être très, très riche en actifs nets, avoir 5 millions, mais me verser annuellement beaucoup moins et finalement me retrouver en bas du 1%. Donc, les statistiques sur le 1%, c'est lorsqu'on ne peut pas faire de manipulation de son revenu officiel personnel. Prenez un médecin avant l'incorporation, avait son revenu totalement versé une année. Maintenant, il peut dire, je laisse dans ma compagnie, je me verse 100 000 et je ne fais pas partie du 1%.
Je paie sur les dividendes.
Exact. Et regardez que le taux d'imposition personnel à 53,31 commence à 202 800 $. Donc, quand tu es vraiment riche, ce que tu fais, tu te verses en bas de 202 800 $. Question de payer moins de 50% d'impôt juste pour le moral.
Oui, évidemment, c'est pas tout le monde qui peut le faire.
Oui, et on ne parle même pas de la notion d'héritage et d'actif net. Donc, le 1% salaire annuel, c'est prendre pour acquis que tout le monde dépense son salaire annuel, ce qui est complètement faux. Son revenu, la réalité, c'est que la richesse, c'est en actif net que ça se calcule et pas en salaire. Parce qu'un salaire, ce n'est qu'un revenu annuel. Mais si j'ai 6 millions de côté sans avoir de salaire, je suis quand même riche, je suis quand même dans le 1%.
Bien
mais
entendu.
Ce n'est pas écrit nulle part.
Et c'est, tu ne fais pas nécessairement partie de ce 1%-là.
Non, exactement.
Basé sur le salaire moyen.
Annuel.
Bon, il s'est dépensé beaucoup d'argent en gros avions.
Des jouets, Paul. Des jouets.
Non, mais je regarde le total là, de la journée. C'est autour de 49 plus 27, 66, 67 milliards de dollars.
Américains. Donc, Fly Dubai a acheté 27 milliards de dollars à Boeing pour acheter des 737 MAX 10, donc la version améliorée du 737. Et c'est lorsqu'on a commencé avec la C-Series, on parlait du moteur, on parlait du design de l'avion. Mais les autres compagnies ont dit « OK, vous améliorez le moteur, on va faire une chose, on va mettre ce type de moteur-là dans nos nouveaux avions en gardant le modèle développé. » Et si on regarde chez Boeing, ce qui est intéressant, c'est de voir que pour un trimestre, on fait près de total de revenus 24 milliards de dollars américains, mais on génère quand même 1,9 milliard de bénéfices nets. Mais on est endetté, là, Paul, imagine. Pour 91 milliards d'actifs, on a seulement 1 milliard qui vient d'équiter. Le reste, c'est tout de l'endettement. Mais c'est mieux que Bombardier qui est dans le négatif. Et Airbus, même chose, on est très, très endetté, mais on génère des profits. C'est là la différence. On est assez solide pour donner confiance aux transporteurs.
Et pour ne pas être en reste, Airbus a conclu un contrat de 50 milliards avec un conglomérat représenté par Indigo Partners. C'est des plus petites compagnies aériennes. 49 milliards de dollars pour le Airbus 320 Neo.
Et là, c'est là qu'on voit que le marché des avions commerciaux est gigantesque, mais une petite
annexe. Incroyable.
Et quand on en vend 12 ici, on est content. Regardez ce qui se passe ailleurs, c'est impressionnant.
Mais Antoine, puis moi, qu'est-ce que Bombardier n'a pas été chanceux? Parce que je regarde le type d'appareil qui a été commandé. Le C-300 aurait très bien répondu à ces compagnies-là.
Ouais, tu m'en parlais tantôt, tu sais, l'économie d'échelle d'avoir un seul type d'avion à entretenir, une seule mécanique à entretenir et une seule catégorie d'employés qui connaît un type d'avion, il y a une économie d'échelle à faire. Donc, si tu as la moitié de ta flotte qui est d'une sorte, est-ce que tu vas acheter une autre moitié d'une autre sorte? C'est peu probable.
Mais tout à fait. C'est là le nœud de la guerre parce qu'il y a bien des compagnies aériennes qui sont perdues avec toutes sortes de compagnies et ils se sont retrouvés avec des coûts d'opération qui étaient importants. Loblaws qui veut... Loblaws, je ne savais pas que Loblaws voulait fermer des magasins jugés non rentables.
Évidemment, Loblaws, on a Loblaws, Provigo, Pharmaprix, Maxi. On ne nous dit pas le nombre de magasins au Québec ou ailleurs.
Mais combien ils veulent en fermer?
Ils veulent en fermer 22, mais à travers toute la corporation. Donc, évidemment, si on regarde les revenus, c'est très rentable. Loblaws, on a généré pour un trimestre 14 milliards de dollars de revenus, puis on a fait un bénéfice net de 894 millions. Mais évidemment, si on regarde, quand on achète 100 $ d'épicerie chez Provigo, par exemple, ça veut dire que vous générez 6 $30 de profit pour l'actionnaire. C'est une très petite marge, mais c'est le double de l'année d'avant qui était à 2 $93 par 100 $. Et si on regarde d'autres compagnies, on voit la même chose un peu chez Metro. On fait le même type de rendement, donc on fait du 4,5, du 4,4%. Donc, l'épicerie, c'est une guerre de marge, une guerre de coûts. Et c'est là le problème ici. Loblaws dit, nous, si on veut continuer à augmenter nos marges, augmenter nos profits, il faut absolument contrôler nos coûts. Donc, on prend les épiceries qui fonctionnent le moins bien. On ferme ces entités-là et puis on se concentre sur celles qui ont une grande valeur ajoutée.
Merci, Pierre-Yves. À demain. Problème.